Il est si bon d'être ensemble avec tous les saints pour avoir de la communion et d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une très grande différence si c'est le Seigneur qui nous parle ou si c'est un message par rapport à un certain frère qui vient d'un certain frère. Si après un message, tu sais que Dieu t'a parlé aujourd'hui et que cela a changé quelque chose en toi. Mais si je peux juste dire oui, ce que Toby a partagé, merci Seigneur, alors le danger est grand que ça va, tu vas l'oublier. Si tu ne prends pas cette parole au sérieux parce que tu crois peut-être que ça ne va pas t'arriver. Mais si c'est Dieu qui te parle et Dieu te dit « Répends-toi » et je ne le fais pas, que sera la conséquence? Alors, il y aura une conséquence vraiment très sérieuse. C'est pourquoi, en ces jours, il m'est devenu très important d'avoir cette conscience que je n'entends pas des hommes. Ma prière pour moi-même et pour tout le monde est que nous puissions entendre Dieu directement. Qu'après chaque réunion, nous puissions dire, témoigner que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Cela doit être le but de cette conférence. Que Dieu puisse nous parler de manière directe et personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est pourquoi il dit que celui qui a une oreille pour entendre. Nous avons tous deux oreilles, mais qu'entendons-nous? Nous pouvons entendre tant de choses, nous pouvons entendre des nouvelles, nous pouvons entendre des divertissements, nous pouvons entendre des choses qui viennent du milieu professionnel, du matin au soir, mais nous voulons consacrer nos deux oreilles pour que le Seigneur puisse nous entendre, afin qu'il puisse nous transformer. Et je crois qu'il est si important que je sache, dans ma vie, je dois encore changer beaucoup de choses. Dans ces jours de préparation, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, transforme-moi en profondeur. » Il y a trop peu de ce que j'ai de toi et à quel point je te ressemble dans ma vie. Les exigences à mon égard sont si éloignées de la manière avec laquelle je vis. Nous avons vraiment vu les exigences de Dieu et il les a toujours posées à son peuple. La première chose, le premier commandement n'est pas un commandement nouveau. C'est le commandement le plus ancien, comme Jean l'a dit. Dans Deutéronome 10, verset 12, il a dit: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Deutéronome 10, 12. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une exigence. C'est une grande différence. Si mon chef me dit, quand tu auras du temps, tu ferais ceci et ceci pour moi, alors la priorité n'est pas un A, mais c'est 3B. Alors, je peux aussi le faire la semaine prochaine, même si mon chef me dit, demain matin, j'ai besoin de ce diagramme. À partir de ce moment-là, je dois tout laisser tomber le reste et me concentrer sur ce diagramme. C'est une exigence. Il ne s'agit pas d'un conseil à notre égard, de l'aimer de tout notre cœur. Mais c'est une exigence. Dieu demande cela de nous pour que nous l'aimions de tout notre cœur. C'est une très grande différence. Dieu a vraiment le droit, est en droit de nous demander cela. Ou est-ce trop demandé? Quand Dieu dit, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu demande ces deux choses, d'aimer de tout son cœur et de servir l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que c'est trop d'exigence? Alors la question est là, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Dieu a tout fait pour nous. Personne d'entre nous ne serait là sans Dieu. Dieu a créé l'univers, il a créé le monde et nous a appelés en existence. Souvent, je dis à mes fistons au petit déjeuner, parfois, ils ne savent pas s'ils veulent prier ou pas. Alors, je leur dis, mais tu sais que le fait que nous ayons quelque chose à manger ici et que nous sommes là et nous vivons, à qui le devons-nous? Alors, ils le savent et nous savons aussi. Tout vient de Dieu, tout. Si nous considérons la création, tout a été créé par Dieu pour nous. Il n'y a personne qui ne nous aime plus que le Dieu vivant. Personne. Et cette preuve est là. En ces jours, tous les chrétiens faites cela en ces jours que Dieu a donné son Fils en sacrifice pour nous. Il n'y a personne qui nous aime plus. Il nous a même donné son Fils unique. Qu'en est-il maintenant de ce commandement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme? Marcus, dis-moi, de tout ton cœur et de toute ta force, toutes tes pensées, toute ta force. Est-ce que c'est trop demandé? C'est trop merveilleux que Dieu demande cela de nous. C'est si merveilleux. Si nous aimons Dieu de telle manière, si nous sommes de son côté, nous sommes les personnes les plus bénies de tous les temps. Vraiment vrai, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, alors c'est une personne qui est bénie par le Seigneur. Nous pouvons lire dans l'Écriture combien de bénédictions le Seigneur a donné à des personnes qui l'aiment d'une telle manière. En fait, nous devons nous dire tout ce qui nous éloigne de cela est de la folie, et nous pouvons même dire que c'est le diable lui-même. Paul a écrit aux Corinthiens, et puis il a dit qu'il craint, comme le serpent a détourné Ève, a séduit Ève, de la même manière, le diable va éloigner les croyants de la simplicité, de la pureté à l'égard de Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, il s'agit d'un combat pour notre cœur. C'est un combat pour le premier amour. Et je crois que nous pouvons témoigner cela, que c'est vraiment un combat. Le premier amour, garder le premier amour pour le Seigneur n'est pas une chose qui va nous tomber dessus par hasard. Certainement pas. C'est vraiment un combat. C'est une guerre. Si nous devenons croyants et que nous expérimentons réellement l'amour du Seigneur en cela, tout le reste devient du déchet. Lorsque j'étais réveillé il y a plus de 20 ans par le Seigneur, tout a fini dans la corbeille à déchets. Il n'y a que le Seigneur qui était important. Et je ne pouvais pas me représenter quoi que ce soit d'autre puisse être important pour un homme. Et ça, il y avait 20 ans. Ça m'est arrivé. La question est, qu'en est-il d'aujourd'hui? Et pas ce qu'il en est de demain, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Où est mon cœur aujourd'hui? Où est mon cœur maintenant, alors que j'ai un appartement? Je suis en train de gagner de l'argent, où je peux me permettre d'acheter un certain nombre de choses. j'ai une épouse, des enfants, beaucoup de responsabilités au travail, j'ai de la pression au travail, de la pression dans la famille, des difficultés. Chacun a ses propres domaines dans cela. À quoi ressemble mon cœur? Est-ce que mon cœur est toujours entier et brûlant pour le Seigneur, comme au premier jour? Ou est-ce qu'entre-temps, j'ai tellement de soucis, tant de responsabilités ou tant de divertissements, tant j'ai tant planifié dans ma vie des activités qu'il n'y a plus de place pour le Seigneur? J'ai plus le temps pour le Seigneur. À quel moment est-ce que je peux encore prier? À 6 heures, les enfants sont là. Ensuite, il y a le chef. Le soir, mon épouse. À un moment donné, je dois aussi penser à moi-même sur ce que je vais faire de ma vie. Où est-ce que le meilleur amour aurait resté? C'est un grand test pour notre cœur si nous passons une telle journée. Le Seigneur l'a dit, nous l'avons lu en Matthieu 24. Nous avons lu seulement le verset 12. J'aimerais aussi le verset 13. Il a parlé de l'iniquité.
Verset
12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, le plus grand nombre. Je ne veux pas garder vers l'extérieur, je veux garder dans ma propre vie et déjà m'occuper de ce qui se passe autour de moi. À quel point est-ce que mon cœur est brûlant pour le Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment impartial? Est-ce que je brûle tout mon cœur pour le Seigneur, pour ce qu'il veut faire avec moi? Au verset 13, il dit, « Mais celui qui persévérera, et en quoi persévérer? Dans le premier amour, dans le meilleur amour. » C'est dans ce contexte qu'il dit cela. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé dans le premier amour. » Il y a juste deux possibilités pour la fin. La première possibilité, c'est que je meurs. Et la deuxième, c'est que le Seigneur vient. Nous ne savons pas très bien quand ça va arriver, mais ça peut arriver très vite. Personne n'a tellement sa vie sous contrôle. C'est pourquoi il est important que nous nous posions cette question. Seigneur, est-ce que mon cœur est vraiment à 100% pour toi aujourd'hui? À 100%, est-ce qu'il brûle entièrement pour toi? Ou est-ce que j'en ai fait un gâteau? 30% au travail, et ensuite la part, elle augmente. 20% mes divertissements, 20% ma famille, et ensuite j'ai encore quelque chose d'autre, et 10% pour le Seigneur. Ma maison a aussi au moins besoin de 30 à 40%. Mon appartement, mes habits, il y a tellement de choses. Ma santé, on peut être entièrement pris par les soucis de notre santé. Quelle eau est-ce que je vais boire? Quel pain est-ce que je vais manger? Et en fin de compte, à chaque fois que nous venons ensemble, nous parlons de notre santé. Le Seigneur veut 100%, avoir 100% notre cœur pour lui. Ça ne signifie pas que je ne vais plus m'occuper du fait que je gagne de l'argent pour nourrir ma famille, pour pouvoir même soutenir d'autres personnes, et que je ne dois pas m'habiller raisonnablement. Ça ne veut pas dire ça. Tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur vont veiller à cela. Mais le combat est autour de notre cœur. Je ne veux juger personne, mais je demande personnellement au Seigneur, en ces jours, Seigneur, est-ce que mon cœur est à 100% chez toi? Est-ce qu'il n'est pas divisé? Est-ce que mon cœur brûle dans l'amour pour toi plus qu'il n'a jamais brûlé? Ou est-ce qu'il y a eu une période dans ma vie où il a brûlé davantage qu'aujourd'hui? Si je peux répondre, si la réponse est oui, alors il y a un deuxième message pour moi, c'est repens-toi. Le Seigneur m'a dit cela toujours à nouveau en ces derniers jours. Repens-toi, reviens à moi. Arrête avec ce gâteau dans ton cœur, ces pourcentages. Donne-moi ton cœur tout entier, entièrement nouvelle. Peu importe ce qu'il y a dans ta vie, celui qui persévérera jusqu'à la fin, seulement celui-là sera sauvé. C'est très souverain que ce point est écrit à l'égard des frères et sœurs à Éphèse. C'est l'Église. C'est l'Église qui le Seigneur parle en premier. Paul a beaucoup servi pour cette Église. Et à tel point que lors de sa dernière visite, il a encore rassemblé les anciens d'Éphèse pour leur donner vraiment un message sérieux. Il les avait déjà avertis. Il a dit, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. Parce que l'Église était tellement dans son cœur. Et quand nous lisons dans cet épître aux Éphésiens, eh bien, l'épître ne parle pas beaucoup de problèmes. L'épître ne commence pas avec des problèmes comme chez les Corinthiens, mais cet épître commence avec une vision de comment le Seigneur accomplit son plan sur cette terre. Comment ça peut être possible? C'est juste possible parce que l'état de l'Église était dans un état merveilleux, une condition merveilleuse. Il ne peut pas écrire cela aux Corinthiens. Leur condition ne correspond pas. Mais à Éphèse, il a pu dire que la condition était vraiment très spéciale. Éphèse, ça veut dire, ça vaut la peine, admirable, oui. Cette parole Éphèse a une deuxième signification. Cette deuxième signification est l'avertissement. Ça veut dire lâcher prise. Ça signifie devenir détaché. Et rien que dans le nom à Éphèse, c'est déjà un message en lui-même. Peu importe l'état de l'Église où on se trouve, où notre propre condition, il y a toujours et à nouveau ce combat et le danger de se laisser aller, de lâcher, de se reposer sur ce qui était dans le passé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, les œuvres sont restées. Toby a mentionné 10 œuvres à Éphèse. Certainement, le Seigneur aime cette Église. Il voit ce qu'elle fait, mais dans tout ce qu'elle a fait, la véritable condition intérieure a été mise à l'ombre par ces choses-là. Le Seigneur a dû lui dire, tu as abandonné ton premier amour. Cela, si dit abandonner, cela signifie que je suis responsable de cela. Si j'ai perdu quelque chose, si j'ai perdu mes clés, je n'en suis pas responsable. Je ne voulais pas perdre mes clés. Mais quand tu abandonnes quelque chose, alors je suis fautif. C'est moi qui suis responsable de cet acte. Si mon cœur n'est pas à 100% pour le Seigneur aujourd'hui, dans le premier amour, eh bien, j'en suis responsable. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas dit « Oui, je ne veux plus avoir de la communion avec toi. Je ne veux plus te voir. J'ai d'autres choses à faire. Je t'ai oublié. » Non, le Seigneur ne dit pas cela. C'est de ma faute. C'est ma responsabilité. Je n'ai pas été attentif. J'étais négligent. Je n'ai pas veillé à la température de mon cœur, au pourcentage, combien de pourcents pour Dieu. Et dans quoi est-ce qu'ils ont été négligents? Dans l'activité? Certainement pas. C'est étonnant. Ils ont vraiment diminué. En fait, c'est étonnant dans la nourriture. C'est la nourriture qui a manqué. Nous pouvons beaucoup, on peut tromper les gens en étant actif. Je peux prêcher l'évangile, venir à la réunion, je peux inviter des frères et sœurs, je peux m'occuper de choses pratiques. Mais la vraie question, en fin de compte, est combien de fois par jour est-ce que je mange le Seigneur? Et à quel point cette nourriture est-elle efficace en moi? La solution pour Éphèse, en effet, était celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça signifie que ils ont oublié de manger. Qu'en est-il de nous? À quel point est-ce important pour nous de nous nourrir du Seigneur de manière riche? Pas seulement un peu. L'année passée, il y a eu une conférence en Corée. Il a été partagé à combien de reprises de nourriture par jour? La réponse était 3 à 4 fois, peut-être même 5. Le petit déjeuner, ensuite tu manges une pomme entre deux, ensuite le repas de midi, ensuite il y a un café, des gâteaux peut-être, et le soir, il y a le repas du soir. Nous nous occupons tellement de notre nourriture. Si tu ne cuisines que rien que pour le repas de midi, il y a déjà 2 heures qui se sont écoulées. Ça me fait toujours de la peine de penser au temps que nous consacrons à la nourriture. Si ça dépendait que de moi, eh bien, du début à la fin, ça durerait que 10 minutes, mais ce n'est pas très sain. On ne devra pas faire cela, on ne devra pas faire trop non plus. Simplement rester raisonnable. Mais ce que je veux dire par là, c'est combien de temps est-ce que je consacre au Seigneur pour me nourrir de lui? Pourquoi est-ce que je ne peux pas arranger ma journée pour que le matin, je puisse prendre un bon petit déjeuner avec le Seigneur à l'arbre de la vie? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me coucher 1 heure plus tôt le soir pour que le matin, j'ai 1 heure de plus pour manger le Seigneur? Pourquoi est-ce que mes vieilles habitudes doivent perdurer? Pourquoi est-ce que mon quotidien est si figé? Et quand le Seigneur me dit, Seigneur, tu n'es pas entièrement pour moi, viens à l'arbre de la vie, alors j'ai même pas ce sentiment intérieur de me réfléchir. Où est-ce que je peux gagner du temps? Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien pour avoir du temps pour manger de l'arbre de la vie? Où est-ce qu'il y a du manque? Si ça m'est égal, si je ne suis pas prêt à changer mes habitudes, je ne peux pas être un vainqueur. Pour être un vainqueur, je dois toute ma vie, je dois changer ma vie, tout. Je dois reprogrammer ma vie. Vous savez, il n'est pas si simple de manger de l'arbre de la vie parce que Satan combat contre cela. Regardez avant Adam et Ève. Satan a combattu le fait qu'ils mangent de l'arbre de la vie. Et Paul utilise cet exemple pour montrer que vous, Corinthiens, vous avez aussi été séduits par Satan. Vous étiez déviés de l'arbre de la vie et de ça, de l'amour, premier amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qui éveille ce premier amour pour le Seigneur? Nous savons que le Seigneur a les conditions pour ce premier amour, mais qu'est-ce qui éveille ce premier amour? Je vous lis le Cantique des Cantiques 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Le Seigneur n'est pas un sapin, il est un pommier duquel on peut se nourrir. Et que faisons-nous? J'ai désiré m'asseoir à son ombre. En quoi est-ce que l'amour a été éveillé? Par l'intermédiaire de la nourriture, de l'arbre de la vie. En mangeant de l'arbre de la vie, l'amour pour le Seigneur est éveillé. C'est pourquoi je veux nous encourager tous aujourd'hui. Reprogrammons entièrement nos vies pour que nous ayons de nouveau du temps, pour passer du temps à manger de l'arbre de la vie. Que nous puissions vraiment veiller à cela. C'est si important. C'est seulement à ce moment-là que le premier amour sera éveillé en nous. Et ensuite, il est dit, son fruit est doux à mon palais. Et ensuite, au verset 4, il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Comment pouvons-nous devenir ainsi uniquement si nous nous réjouissons, nous nous nourrissons du Seigneur? Et mes habitudes ont changé par rapport à cela. Dès le matin, je mange le matin, à midi, je mange le Seigneur et le soir, je mange le Seigneur. Pas seulement prendre un moment le matin. Pourquoi est-ce que je dois me nourrir une fois, avoir un petit déjeuner spirituel? Et puis, ma nourriture physique, je l'ai 5 fois. Qu'est-ce qui est plus important? Ça n'a pas de sens. Est-ce que le Seigneur est plus important ou mon pain pour mon ventre? Est-ce que le premier amour est plus important ou mon estomac? Si nous voulons être des vainqueurs aujourd'hui, le premier amour et la nourriture sont étroitement liés. Laissons-nous vraiment nous nourrir du Seigneur de manière plus riche, comme dans le cantique des cantiques. Je vous recommande vraiment de relire ce cantique des cantiques en ayant ce regard sur la nourriture et le premier amour. Cela ne sert pas à grand-chose d'avoir juste une conférence. Il est plus important de vraiment revenir à l'arbre de la vie, à notre premier amour, à notre bien-aimé, et de mettre ça en priorité. Dans Apocalypse 10, le Seigneur a aussi donné à manger à, au verset 9, il a dit à Jean, il a dit, prends le livre et étudie-le. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, prends-le et avale-le. Souvent, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette parole à la conférence? La question vient, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais dans mon cœur, je me suis dit, la question n'est pas que je dois comprendre, mais quand, si c'est ma seule question, je vais spirituellement être malade. Je peux comprendre tout, mais spirituellement, je suis malade. Je n'aime pas le Seigneur de tout mon cœur. La question ne doit pas être comment est-ce que je comprendrai cela, mais dire au Seigneur, Seigneur, je veux manger cette parole et je veux la vivre. Et dans Apocalypse 10, il dit, verset 9, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et l'amertume dans les entrailles signifie que ça, il y a une action dans ton cœur. Il y a 2 ans, j'ai changé ma nutrition et depuis là, je suis sain, en bonne santé. D'où cela venait? Pas parce que j'étais chercher des médicaments coûteux, mais j'ai changé mes habitudes alimentaires. Et j'ai pris les bonnes vitamines et journellement, j'ai été approvisionné. Alors, nous allons demeurer en bonne santé. Pas juste faire un moment du matin et ensuite je m'enfuis et il n'y a plus rien. Alors, le Seigneur n'a pas pu nous gagner pour être ses vainqueurs. Dans l'Apocalypse, il dit, il sera amer à tes entrailles. La parole doit vraiment agir dans nos entrailles. Elle doit travailler en moi. La repentance que je fais doit être agissante. Si ma repentance n'agit pas, ou ce n'est pas une véritable repentance, où est-ce qu'on voit une repentance? C'est que ma priorité numéro 1, c'est le Seigneur en tout temps. Ma force, mes pensées, tout est vers le Seigneur. Pourquoi est-ce que je vais investir ma force? Pas au travail pour que je puisse monter en grade, mais pour servir le Seigneur. Pourquoi est-ce que je veux consacrer mon temps, mes pensées, pas pour aménager mon appartement, mais pour bâtir l'Église? Ça, ce sont les premières œuvres. Et cette repentance, ce n'est pas une repentance superficielle. Je vous lis un verset dans Joël. En ces jours, je me suis beaucoup repenti. Je peux vraiment vous témoignez, de mon côté, ce n'est pas si simple. C'est pas juste, Seigneur, je suis désolé, je me tourne vers toi. Donne-moi le meilleur amour, le premier amour. Seigneur, donne-moi le premier amour, amen, et puis c'est fini. Non, c'était pas comme ça. Pas du tout. Ça signifie que je suis allé plus tôt au lit. Jusqu'à 7 heures, papa n'est pas disponible. Il doit aller à l'arbre de la vie. J'ai aussi modifié l'heure de mon lever le matin. Tu dois reprogrammer toute ta vie pour que tu puisses être un vainqueur. Il s'agit pas d'être sur la voie latérale. Joël 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, louez le Seigneur, maintenant encore. Nous avons encore du temps. Nous ne voulons pas finir comme Éphèse. Éphèse n'a pas réussi à se repentir. L'Église à Éphèse n'est pas restée. Cela me montre que ce n'est pas si simple de parvenir à cette repentance. Se repentir d'un péché grossier, ce n'est pas si difficile. C'est un combat, mais se débarrasser d'une habitude, c'est moins évident. Être séparé de différentes choses, des attractions, c'est aussi un combat. C'est une repentance qui est nécessaire. Mais ici, avoir une repentance vers le premier amour est aussi quelque chose qui a besoin de tout notre cœur. Et le Seigneur dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas abandonner si vite. Revenir entièrement vers le Seigneur, spécialement dans un état comme Éphèse, on fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Extérieurement, on pense que c'est si bien, on sert, on est présent. Mais ce n'est pas la question. La question est, est-ce que le Seigneur me dit que je suis entièrement pour lui? Est-ce que mon cœur est à 100% pour lui? Là est la question. Et ensuite, il dit, déchirez vos cœurs. C'est un verset fort. Et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Que cette épître à Éphèse nous aide à nous repentir maintenant et à partir de maintenant, de nous repentir journellement. Si nous le faisons maintenant pour une semaine, dans deux semaines, nous serons de nouveau en train de déconstruire ce que nous avons vu. Ça va très vite. Une traduction dit, je viendrai vite et je repousserai, je rejetterai le chandelier. Ça veut dire que la chute va vite. Et c'est pourquoi il est nécessaire journellement, de nous repentir journellement. Ça veut dire de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toute notre force. C'est pour cela que nous avons l'arbre de la vie. Que le Seigneur nous fortifie tous et nous motive, nous attire à lui, que nous laissions vraiment évaluer par lui. Que nous puissions vraiment mettre nos vies devant le Seigneur et lui demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour que le premier amour te revienne et que les premières œuvres soient de nouveau présentes, afin que je puisse te servir dans ton plan en numéro un. Si nous faisons un tel virage maintenant et que nous le faisons journellement, alors les 7 lampes sur le chandelier vont briller. Il n'y a pas juste 3 ou 4 qui vont briller, mais toutes les 7 vont briller. Et journellement, c'est un aspect si important. Cette lampe sur le chandelier a un volume que pour une journée. Cette huile ne suffit que pour une journée. Chaque soir, tu dois reverser de l'huile, dit la parole. Cette repentance est vraiment journalière. Chaque jour, à partir de maintenant, retournons au Seigneur de tout notre cœur. Que nous puissions y rester et que nous puissions pratiquer les premières œuvres jusqu'à ce qu'ils viennent. Alors nous serons tous sauvés. Louez le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces encouragements parce qu'il nous aime. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu te tiens à la porte. Que cette repentance puisse vraiment être réelle en nous. Fortifie-nous dans cette résolution. Sois écrit sur nos cœurs, Seigneur. Amen. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas durs. Nous voulons entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Nous retournons à toi de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, que nous ne soyons pas remplis d'autres choses. Chaque jour, nous voulons venir à toi, que nous soyons remplis de ta vie, afin que nous puissions marcher dans ce premier amour en toi. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, que ce ne soit pas une part de gâteau, mais que ce soit notre cœur tout entier. Tu veux vraiment gagner tout notre cœur, que ce soit entièrement à toi. Nous voulons vraiment vivre entièrement pour toi. Nous voulons vraiment que notre cœur soit entièrement pour toi. Spécialement quand notre quotidien, dans notre quotidien, il y a de la tempête, Seigneur. Amen.
Seigneur,
nous ne voulons pas que notre cœur, que ta parole soit étouffée par les choses de la vie quotidienne. Merci pour ce chemin pratique de te manger. Fortifie-nous, Seigneur. Nous voulons vivre par toi, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient à nouveau orientés pleinement vers toi. Montre-nous comment nous pouvons être ces vainqueurs. Seigneur, aide-nous à réaménager notre quotidien pour que nous puissions nous nourrir de toi. Vraiment. Nous venons à toi, Seigneur. Nous te donnons notre cœur entier, nos pensées, notre âme, tu puisses vraiment nous transformer. Seigneur, donne-nous une telle parole dans cette conférence qui nous conduise à la repentance, afin que nous ne restions pas les vieux, mais que nous soyons transformés à ton image. Seigneur, nous nous donnons vraiment pour ce premier amour, là où nous sommes tombés, dans tous ces domaines, Seigneur, ramène-nous à toi. Amen.